nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs de Canal Académie, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de recevoir Xavier Norte, qui est le délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture et de la Communication. Beaucoup d'entre vous certainement connaissent ce de nom Xavier Norte, mais pas forcément son parcours, et il a un parcours brillant. Xavier Norte est ancien élève de l'École normale supérieure rue d'Ulm, agrégé de lettres, et c'est aussi un parcours que je trouve particulièrement intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la francophonie. Il est né en Amérique latine, à Bogota, donc en Colombie, et a passé une partie de son enfance et de son adolescence dans des pays francophones comme Haïti, 1961-65, et le Canada-Québec de 1965-1969. Et vous avez donc connu le Québec, sans même parler d'Haïti, à une époque quand même qui remonte à un certain temps.
À une époque tout à fait cruciale, puisque c'était au milieu des années 60, et cette époque était une époque de réveil pour le peuple québécois. C'est d'ailleurs dans ces années que le général de Gaulle y a fait une visite assez mémorable, qui n'a pas été sans conséquence, comme vous le savez, sur la francophonie nord-américaine et le Québec en particulier.
1967.
Exactement.
Et je me permets de vous dire que j'ai, moi, découvert le Québec en 1964. Donc je suis passé un été
de quelques années.
Juste. Et alors, pour revenir à votre carrière, qui est une carrière extrêmement riche, tout à fait passionnante, et qui vous donne, je dirais, mieux qu'un balcon en forêt, une vision du monde, car vous avez été attaché culturel à New York 1980-1984, conseiller culturel à l'ambassade de France à Rome 1990-1995, puis à Londres 1999-2002, où vous avez dirigé l'Institut français du Royaume-Uni. Ensuite, dans le cadre, et je me permets de terminer par là, dans le cadre de vos précédentes fonctions de directeur de la coopération culturelle et du français au Quai d'Orsay, 2002-2004, vous avez toujours défendu, et ça je peux en témoigner, une stratégie offensive de promotion de la langue française dans le monde en prenant soin de la décliner différemment selon les régions et les problématiques qui leur sont propres. Et je dois ajouter à ce que je viens de dire que vous êtes certainement, et je m'en réjouis pour nos éditeurs, une des personnalités françaises qui a une connaissance tout à fait précise, je pourrais presque dire par moments chirurgicale, mais au sens le plus noble, de ces questions du français et du dialogue de culture. Donc nous sommes vraiment très heureux, Xavier Norte, de vous accueillir aujourd'hui.
Merci beaucoup de votre accueil.
Alors, le premier point, je crois, qui est important, c'est ce fameux rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française. Alors, qu'est-ce que ce rapport, qu'est-ce qui est important dans ce rapport?
Eh bien, comme vous le savez peut-être, nous sommes tenus de rendre chaque année, le 15 septembre, un rapport au nom du gouvernement et de le rendre au Parlement, aux deux assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette obligation nous en est faite par la loi du 4 août 1994, la fameuse loi Toubon, celle qui encadre l'usage du français dans notre société. Cette loi institue une délégation générale à la langue française, enfin l'un de ses décrets d'application le fait. Et donc il nous faut chaque année proposer à la représentation nationale ce que j'appellerais un diagnostic kaléidoscopique sur l'emploi du français dans différents secteurs de la vie sociale. Le français dans le monde de l'entreprise, le français dans la recherche scientifique, le français dans les transports, le rôle, la place que joue la langue dans le dialogue avec le consommateur. Parce qu'il est très clair, et c'est d'ailleurs une des dispositions essentielles de la loi du 4 août 1994, que le consommateur doit pouvoir disposer d'une information en français sur les produits qu'il achète. Autant dire qu'il y a là un effort qui est nécessairement un peu parcellaire ou fragmentaire pour appréhender la place de la langue française dans notre société. Et puis, il y a un volet international. Il s'agit pour nous de rendre compte de l'usage du français dans diverses organisations internationales. Nous ne pouvons pas les expertiser toutes chaque année. Il y faudrait un très long rapport et toute une armée d'auditeurs. Mais chaque année, nous choisissons un angle d'attaque. Et cette année, nous avons choisi de parler plus particulièrement de l'Afrique. Nous parlons chaque année de la place du français dans les institutions européennes aussi.
Alors, petite question importante. Vous êtes à ce poste depuis quelques années. La situation du français en France même, dans tous ces organismes, est-elle stationnaire, en amélioration ou est-ce qu'elle se détériore ?
Il est difficile de parler du français en termes de détérioration ou de progrès. Il n'y a de progrès en la matière que relatif par rapport à d'autres langues. Ce sont donc les relations entre le français et les autres langues qu'il faudrait analyser plus finement. Ça n'est pas tout à fait le propos de ce rapport. Ce que nous avons voulu apprécier cette année, c'est plus particulièrement la place des langues, pas simplement du français d'ailleurs, des autres langues aussi, dans les services publics, et puis aussi l'usage des langues vivantes dans le monde de la recherche scientifique, en faisant ce que l'on pourrait appeler un zoom sur cette question qui est tout à fait stratégique. Quelles langues utilise-t-on dans la transmission des savoirs scientifiques, dans la production et la transmission des savoirs scientifiques? C'est une question que cette année nous nous sommes posés en effet, et nous en avons ramené d'ailleurs des enseignements tout à fait intéressants.
Mais alors, avant d'arriver à ces enseignements, est-ce qu'il n'est pas un peu inquiétant d'une certaine façon, même si l'importance de parler plusieurs langues est vitale, c'est évident, mais lorsque nous voyons ce rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française, on y lit, par exemple, « La communauté scientifique, quant à elle, ne se satisfait pas du monolinguisme, d'accord. Si elle reconnaît à 70% l'anglais comme langue de communication dans les sciences exactes ou naturelles, cette proportion descend à 34% dans les sciences de l'homme et de la société. » Bon, tout cela est de bon augure, d'une certaine façon. Mais si l'on creuse un petit peu plus, ce qui apparaît inquiétant, c'est cette espèce, et je crois que vous le soulignez très bien, d'unilinguisme vers l'anglais, alors que les autres langues, soyons francs, n'ont pas l'air de, tout au moins dans le domaine des sciences, scientifiques, de la recherche, n'ont l'air d'intéresser ou d'être vraiment utilisées, sauf à quelques pourcentages, par les chercheurs. Et est-ce que là, il n'y a pas lieu tout de même de s'inquiéter pour l'avenir de l'Europe de la recherche quand même ?
Il y a sans doute lieu de s'inquiéter pour l'avenir du français comme langue de communication dans le champ du savoir scientifique. Il est de notoriété publique que l'anglais, notamment dans le domaine des sciences dures ou des sciences exactes, s'est imposé quasiment exclusivement. Alors c'est cette situation que nous avons voulu chercher pour voir s'il ne subsistait pas malgré tout des disciplines où le français gardait sa fonctionnalité. Alors c'est un diagnostic tout à fait intéressant que nous avons retiré de cette enquête, qui, je le rappelle, a été conduite par l'Institut national d'études démographiques. Donc c'est une enquête elle-même scientifique.
Sérieuse.
Tout à fait sérieuse. Et c'est la première dont nous disposons. C'est la première fois que nous avons une photographie exacte de la situation des langues dans le domaine de la recherche scientifique publique. Alors, elle a été conduite auprès de 2000 directeurs de laboratoire. Quelques 6000 chercheurs, quelques 6000 réponses de chercheurs ont été publiées.
Considérable.
Ce qui est considérable.
Considérable.
Et alors, elle montre que près de 2 chercheurs sur 3, 63%, près de 2 chercheurs sur 3 déclarent utiliser une langue étrangère dans ses activités de recherche. Et par langue étrangère, vous savez, c'est un euphémisme. Il ne faut pas comprendre le latin. C'est bien entendu
c'est l'anglais
qu'il s'agit. Mais ce qui est intéressant, et le point inquiétant, si vous voulez, c'est que près d'un chercheur sur 3 éprouve des difficultés à produire de la pensée dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que ces chercheurs ne sont pas à l'aise avec cette situation. Ils sont presque 9 sur 10 à déclarer que la langue internationale la plus utilisée dans leur domaine est l'anglais. Ce pourcentage est évidemment variable selon qu'il s'agit de la physique nucléaire
ou des mathématiques,
où le français garde encore
une
très grande force, ou de l'histoire, les autres sciences de l'homme et de la société, n'est-ce pas ? Mais en moyenne, 9 chercheurs sur 10 déclarent que la langue internationale la plus utilisée dans leur domaine, c'est l'anglais. Eh bien, un chercheur sur 3 éprouve des difficultés à penser dans cette langue qui n'est pas le français, en l'occurrence l'anglais. Et 42%, c'est-à-dire près d'un chercheur sur 2, dit éprouver des limites en anglais, ce qui est énorme. Alors, on peut en tirer des conclusions tout à fait opposées. Les uns diront, eh bien, c'est une situation qui ne peut pas durer plus longtemps, il faut
basculer
au tout anglais le plus vite possible pour surmonter cette gêne. D'autres vous diront, eh bien, ce diagnostic le montre avec évidence, c'est le moment de défendre bec et ongle l'exercice d'un droit au français dans tous les champs du savoir et là où on peut le faire. Donc la réponse ne va pas tout à fait de soi.
Non, elle est nuancée.
Pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire revendiquer un droit au français, notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales, parce que l'emploi d'une langue n'est pas indifférent en histoire, en philosophie, en économie, enfin dans la plupart des disciplines qui ont un rapport très profond avec le langage. On utilise des concepts qui ne sont pas interchangeables et souvent très peu traduisible d'une langue à l'autre. En revanche, dans le domaine des sciences exactes, si vous voulez, on ne peut même pas dire...
La physique.
La physique, la chimie, enfin la plupart des sciences dites dures, des sciences exactes, les sciences de la vie, ce n'est même pas de l'anglais qui est utilisé. Quand vous écrivez une équation au tableau, quand vous faites de la physique quantique, bon, alors effectivement, pour pouvoir communiquer avec les chercheurs de votre discipline, ce sont des petites communautés où chacun se connaît, une syntaxe calquée sur l'anglais, quelques mots d'origine, qui sont d'ailleurs souvent des mots d'origine latine, suffisent à permettre la compréhension. Ça n'est pas très grave. Encore que, et nous en avons eu un exemple récent dans le domaine de l'ingénierie nucléaire, domaine où les sciences exactes s'imposent, s'il en est, c'est de la recherche pure et souvent avec des implications technologiques très importantes, les concepts ne sont pas tout à fait les mêmes en anglais et en français. Et si on veut avoir, je dirais, une vision française du nucléaire, on a intérêt à utiliser un vocabulaire français parce que le vocabulaire anglo-américain ne recoupe pas exactement nos propres concepts.
Au fond, ce que nous comprenons bien, à travers les quelques exemples que vous venez de donner, c'est que c'est vraiment cette enquête est quelque chose de remarquable parce qu'elle met vraiment les pendules à l'heure. Mais alors, nous arrivons, maintenant que les pendules sont à peu près à l'heure, nous arrivons à un carrefour, c'est-à-dire, à la fois, il faut améliorer la communication en anglais qui n'est pas toujours si bonne que ça et donc qui nuit aux échanges, et en même temps, conforter au maximum, donner aux Français la place qu'il doit avoir, qu'il mérite d'avoir.
Absolument, et notamment s'agissant de certaines publications scientifiques, mais encore une fois, pas nécessairement dans tous les domaines scientifiques. Il y en a où la langue joue essentiellement un rôle d'outil de communication, et il y en a d'autres où la langue n'est pas seulement un outil de communication, mais porte en elle une vision du monde, si vous voulez.
Voilà. Ouais.
Alors, me direz-vous, il est très difficile de séparer les fonctions d'une langue. Et il est vrai qu'une langue est indissociablement un outil de communication et en même temps l'expression d'une culture. On ne peut pas séparer les deux choses. Chaque fois que l'on réduit une langue à sa fonction de communication, on se prive de ses possibilités expressives et on nuit, hélas, à la diversité des langues dans le monde. Parce que fait-on ce faisant ? Eh bien, on pose comme principe que les langues disent toutes la même chose ou que l'on dit la même chose dans une langue ou dans une autre. Ce qui est faux.
Ce qui est faux.
Ce qui est faux. Et nous en faisons l'expérience chaque fois que nous cherchons à traduire. Quand nous cherchons à traduire, nous comprenons très bien qu'un mot dans une langue n'est pas tout à fait équivalent à un mot dans une autre langue, même si une partie du sens peut naturellement circuler d'une langue à l'autre. Lorsque vous dites, c'est un exemple très banal, mais lorsque vous dites « spring » en anglais, vous ne dites pas tout à fait la même chose que « printemps ». Que dit le mot « printemps » ?
C'est « jaillissement », »,« spring ».
Spring, exactement. Il y a l'idée de jaillissement, de renouveau, que vous ne trouvez pas nécessairement dans « printemps », puisque « spring » veut dire aussi « jaillir ». Enfin, etc., etc. On peut multiplier les exemples.
Alors,
vous avez deux mots en russe pour désigner la couleur bleue, selon qu'il s'agit du bleu du ciel ou du bleu de la mer. Enfin, etc., etc.
Parfait. Nous allons nous arrêter juste une petite seconde avant de reprendre cet entretien avec Xavier Nort.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Academy. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavini, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Academy, à écouter et télécharger sur canalacademy.com.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je suis très heureux de reprendre mon entretien avec Xavier Nort, qui est le délégué général à la langue française et aux langues de France. Et il est en train de nous parler de l'usage des langues, notamment de l'anglais et du français, dans la transmission des savoirs, sans oublier bien entendu les autres langues. Alors, cher Xavier Nort, que pouvez-vous répondre à ceux qui s'inquiètent de voir cette dégradation quand même réelle dans le cadre des institutions de l'Union européenne ? Et ma deuxième question, c'est celle qui concerne le groupe de savants qui à la fois doivent améliorer leur anglais et à la fois doivent absolument conforter le français, sinon ça sera la dévitalisation de notre langue.
Alors le contexte n'est pas le même selon qu'il s'agit de la place du français dans les organisations internationales et notamment dans les institutions de l'Union européenne et la place du français dans la recherche scientifique. Restons un instant, si vous le voulez bien, sur le second point, c'est-à-dire sur le français dans la recherche scientifique publique. Je crois qu'il y a plusieurs choses à faire et on ne saurait rester les bras croisés face à cette situation. L'acquisition de compétences en langue étrangère et notamment en anglais n'est pas de ma responsabilité, mais j'admets très volontiers qu'il faut l'améliorer. D'ailleurs, plus on se sentira à l'aise en anglais, dans ce domaine comme dans d'autres, plus on sera tenté de défendre le français dans certaines circonstances où il faut le défendre, parce qu'on sera du coup sans le moindre complexe vis-à-vis de l'anglais. On sera tout à fait à l'aise, sachant qu'on peut recourir à l'anglais à tout moment. Raison de plus pour utiliser le français quand il le faut. Alors, deux ou trois pistes qui sont de nature différente. D'abord, il faut que le français reste une langue efficace. Le français ne restera en usage, ne restera une langue fonctionnelle, comme disent les linguistes, que s'il recèle en lui toutes les possibilités d'expression, s'il peut dire le réel et notamment s'il peut exprimer les réalités contemporaines et les plus modernes.
Et ce n'est pas le cas ?
Et c'est tout à fait le cas. Simplement, cela suppose un travail. Dans des domaines de haute spécialisation, le génie génétique, l'écologie, l'ingénierie nucléaire, si vous voulez continuer à travailler ou à faire de la recherche dans ces domaines, il faut avoir les mots pour le dire. Ces mots, il faut les créer en français.
Et d'ailleurs,
sinon, vous allez les chercher dans une autre langue.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans votre texte, lors de votre communication de la transmission des savoirs, de l'usage des langues qui s'intitule, je précise, de l'usage des langues dans la transmission des savoirs présenté à Bologne le 31 octobre 2009, vous apportez des pistes extrêmement intéressantes en évoquant la question de l'existence d'écoles de pensée françaises.
Oui.
Et au fond, voilà quelque chose de vital.
Absolument. C'est tout à fait essentiel. C'est tout à fait essentiel. Alors ça, c'est une première piste et ça nous ramène vers les travaux des commissions de terminologie qui font un travail très utile, très spécialisé, qui n'a pas vocation à s'adresser d'ailleurs au grand public, mais justement à des communautés de chercheurs qui ont besoin de ce vocabulaire spécialisé pour que la langue française reste une langue efficace. Et c'est de cette efficacité que dépend sa fonctionnalité, sa capacité à être utilisée,
à fonctionner
comme outil de communication. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, et ça c'est la responsabilité de l'État, c'est celle que nous nous efforçons d'exercer à notre modeste échelle, nous réunissions les conditions d'exercice d'un droit au français dans le monde de la recherche. Et je vais vous donner l'exemple d'un petit programme qui certes a une portée limitée. Il faut notamment permettre aux chercheurs français, francophones,
bien sûr,
au-delà des chercheurs français, parce que n'oublions pas que le français n'est pas seulement parlé par des chercheurs français, il est aussi parlé par des chercheurs québécois, belges, suisses. La communauté internationale des chercheurs, elle comporte de très nombreux francophones. Mais il faut permettre à ces chercheurs francophones de s'exprimer en français dans des grands colloques scientifiques internationaux s'ils le souhaitent. Sur le territoire français d'abord, ça c'est notre responsabilité, et en dehors de notre territoire, ça c'est le rôle de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pourquoi nous avons mis au point un petit programme qui s'appelle le Fonds Pascal, c'est un petit fonds de soutien à l'interprétation dans les colloques scientifiques internationaux et qui permet à ces organisateurs de colloques de mettre en place une interprétation du français vers d'autres langues et bien entendu singulièrement vers l'anglais, parce que tout le monde comprend peu ou prou l'anglais. Mais le point important...
Ou croit comprendre.
Mais dans le monde scientifique,
oui.
Grosso modo, tout le monde comprend un anglais basique. C'est ça. Bon. Mais en revanche, le point important, c'est de permettre aux chercheurs de s'exprimer dans leur langue. Et s'agissant des francophones, de s'exprimer en français. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce programme. Vous avez là une deuxième piste. Il y en a d'autres encore. Personnellement, je pense qu'il faudrait aider les revues scientifiques, notamment dans le domaine des sciences sociales et humaines, à continuer à publier une majorité d'articles en français. Mais naturellement, pour que l'on continue à publier ces articles en français, il faut qu'ils soient également intelligibles en anglais.
Il faut donc
les traduire. Et il faut les traduire en les mettant en ligne, de manière à ce qu'ils puissent toucher des communautés de chercheurs non francophones. Et donc, il y a certainement à mettre en place, et nous allons y réfléchir cette année, un programme qui pourrait permettre à des éditeurs de revues scientifiques de bénéficier d'une aide pour la traduction en anglais de ces articles.
Et puis alors, toujours dans votre communication sur de l'usage des langues dans la transmission des savoirs, vous dites aussi certaines choses extrêmement importantes, notamment chacune des langues traduit à sa manière l'expérience humaine, et c'est aussi d'une certaine façon d'appréhender le réel et, pour le dire trivialement, qu'elle implique une vision du monde.
Oui.
Or, c'est quelque chose que nous n'avons pas assez développé, c'est-à-dire que nous pourrions présenter dans le cadre universitaire ou autre. Quelle est la vision de l'espagnol ? Quelle est la vision de l'allemand ? Quelle est la vision... Or, ce genre, ça doit exister, mais de façon très parcellaire. Et ça, ça serait quelque chose à encourager, que vous soulignez tout à fait.
Oui, je crois qu'il ne faut pas insister à l'excès sur les spécificités culturelles des langues. Mais il est très clair que chaque langue découpe le monde à sa manière. Chaque langue est un... C'est une image assez jolie, je crois qu'on la doit à Barbara Cassin récemment. Elle disait une langue est un filet jeté sur la réalité qui ramène à chaque fois des poissons différents, oui, si vous voulez.
Tout à fait.
Il suffit de parler une ou deux langues, ou d'avoir la pratique d'une langue étrangère, de parler plus d'une langue pour le comprendre.
Alors, vous...
il faut, elle dit souvent d'ailleurs, il faut parler plus d'une langue pour comprendre qu'on en parle une.
Ah oui, oui, et je crois que c'est très vrai, et ça nous mène à la traduction.
Et ce qui nous mène à la traduction, bien sûr. Bien
Parce sûr. Que la traduction est la meilleure des écoles pour pénétrer. Nous avons un exemple extraordinaire en France de ce professeur du Collège de France que vous devez certainement connaître, qui s'appelle Michael Edwards,
bien sûr,
qui parle aussi bien le français que l'anglais. Enfin, je ne veux pas parler à sa place, mais je l'ai reçu ici. Je dois dire, étonnant personnage.
Ah oui, oui.
Étonnant personnage.
Bien sûr, bien sûr. Parfaitement bilingue et porteur, justement, sans doute, de deux visions du monde.
Il porte véritablement en lui-même deux visions du monde.
Absolument.
Ça, c'est extraordinaire.
Absolument.
Ça. Si laissons un peu de côté cette communauté des savants, qui est pourtant très importante, mais dont vous avez dit beaucoup de choses tout à fait intéressantes, si nous revenons un peu aux institutions de l'Union européenne. Alors, il y a quelque chose quand même qui, pour le chercheur que je suis, qui quand même me frappe en lisant cette synthèse du rapport au Parlement sur le poids de la langue française, c'est de constater que dans les institutions de l'Union européenne, le renforcement des positions de l'anglais et l'érosion parallèle du français se poursuivent et que seulement 11,8% des documents produits à la Commission européenne font l'objet d'une rédaction en français. Quand on pense tout de même que le rôle de la France, du point de vue historique, à Bruxelles, et quand l'on réalise la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui encore, je crois qu'au moins 290 députés européens entendent bien le français sur combien 730, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un peu d'effroi devant cette différence de traitement entre l'anglais et le français, cher Xavier Nord?
Bon, que 12% des documents produits à la Commission européenne fassent l'objet d'une rédaction en français, c'est un chiffre évidemment assez provocant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 12% des documents qui soient diffusés en français. Ils sont produits en français.
Originalité.
Voilà, exactement.
Ah oui, oui.
Mais en effet, c'est un
produit
qui illustre tout à fait le recul de la langue française dans les institutions de l'Union européenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la place du français dans une Europe à 27 ne peut pas être la même que dans une Europe à 6, ce qui était le cas au départ, où le français n'a eu aucune peine à s'imposer face à l'italien enfermé dans sa péninsule, à l'allemand qui était la langue des vaincus, ou au néerlandais qui n'était guère parlé en dehors des Pays-Bas, n'est-ce pas? Donc le français était la langue... Et donc nous vivons encore un peu dans l'utopie de ce qui déjà à l'époque était un peu une rente de situation liée au périmètre de l'Union européenne commençante, si j'ose dire, c'est-à-dire de la Commission européenne du marché commun, comme on disait à l'époque.
Vous avez raison, mais là où je m'arrête un petit peu sur ce que vous voulez dire, c'est que cette rente de situation, là... Il faut convenir, nous n'avons pas occupé la place des autres, mais les autres n'occupent pas leur place.
C'est vrai. Non,
c'est là le problème.
C'est vrai. Et dans une Europe à 27, on pourrait imaginer que les langues de plus large diffusion,
l'allemand,
il y en a 4 ou 5, si vous voulez, qui sont plus parlées que d'autres, qui sont parlées par plus de 50 millions ou 60 millions, pas tout à fait, mais enfin, disons entre 30 et 60 millions de locuteurs et parfois plus, c'est évidemment l'anglais,
l'allemand.
Le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le polonais, si vous voulez. Ces 5-6 langues ne sont pas toutes langues de travail, bien qu'elles soient toutes langues officielles, ne sont pas toutes langues de travail.
Sont assez peu diffusées.
Absolument. Mais la question, on le comprend aisément, c'est que plus vous avez des locuteurs de langues différentes dans une même pièce, et plus la pression est forte pour qu'ils s'entendent sur une langue commune comme instrument de communication. Est-ce que c'est grave? Oui, bien sûr, parce que l'Union européenne est prescriptrice. Et naturellement, les régimes linguistiques qui sont suivis par les institutions de l'Union européenne tendent à faire jurisprudence, à structurer l'usage des langues dans le reste de la société. Mais ce qui est plus important que la langue ou les langues que parlent quelques dizaines de milliers de fonctionnaires, ce sont les langues que parlent les Européens eux-mêmes. Et dans quelle langue ils se parlent à eux-mêmes? Quand un Français rencontre un Polonais, quand un Italien rencontre un Néerlandais, quand un Danois rencontre un Portugais.
Et
c'est ça le point.
Et quand un député à Bruxelles, rencontre un autre député pour reprendre les deux.
Oui, mais ça, je dirais, c'est très intéressant, mais ça ne concerne que 700 personnes.
Bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est ce qui concerne 70 millions de personnes, ou 30, si vous voulez. C'est là-dessus que doit porter la réflexion. C'est-à-dire qu'une politique européenne des langues ne doit surtout pas s'enfermer sur des questions de régime linguistique dans les institutions de l'Union européenne. Ce qu'il nous faut penser, c'est la manière de faire coexister les langues, d'organiser la coexistence des langues au sein de l'Union européenne. Et c'est là qu'il faut mettre en place une politique extrêmement résolue, dont la traduction, vous le rappeliez très justement, doit être l'outil primordial.
Majeur.
Absolument,
majeur.
Primordial.
Mais vous qui êtes un homme dynamique, en poste depuis quelques années, qui voyagez certainement en Europe, est-ce que vous avez l'impression que notre langue reste une langue encore bien parlé,
bien sûr.
Apprécié.
Bon, bien
donc,
sûr.
Donc c'est très positif.
Il est convenu de battre notre coulpe et nous avons souvent une tendance à l'autodénigrement. Mais vous savez, le français, il ne se porte pas si mal que cela, même en Europe, où c'est vrai, il a perdu des positions historiques. Et on en comprend très bien les raisons. L'analyse en a été 100 fois faite. Le français, ne l'oublions pas, c'est la langue des trois capitales de l'Union européenne. Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. Certes, aux côtés d'autres, d'une autre
bien
langue,
sûr,
l'allemand, le luxembourgeois, le flamand à Bruxelles. Mais enfin, le français reste la langue des trois capitales européennes. Mieux encore, le français est la langue officielle du plus grand nombre d'États en Europe avec l'allemand. C'est-à-dire qu'il y a deux langues et deux langues seulement qui sont les langues du plus grand nombre d'États, parce qu'ils sont parlés par plus de deux États, si vous voulez, en Europe, c'est l'allemand et le français. Mais le français a ce privilège qu'il partage par ailleurs avec trois autres langues et trois autres seulement, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol et le portugais, c'est aussi une langue de communication internationale.
Mais... Et même la deuxième, on peut dire.
Absolument.
Même la deuxième. Donc il y a un peu d'injustice avec le français quand même. Il y a un peu d'injustice quand même.
Et le français est la seule langue à cumuler ces deux caractéristiques, d'être à la fois la langue parlée par le plus grand nombre d'États en Europe et en même temps d'être une grande langue de communication internationale. C'est la seule. Ce qui, me semble-t-il, justifierait à lui donner un statut particulier en Europe, mais qu'il faut adosser ce statut, non pas à l'héritage de l'histoire, c'est pas parce que nous sommes en 2010 et non plus à l'époque Metternich, si vous voulez, a fortiori de la diplomatie du grand siècle, quand l'Europe parlait français, qu'il faut adosser à des réalités contemporaines. Et si on prend une juste mesure de ces réalités, eh bien, on s'aperçoit que le français, finalement, garde toutes ses chances.
Et on s'aperçoit aussi que parfois, il faut le dire, certains Français qui n'ont peut-être pas toujours joué le rôle qui était le leur de bien, si vous voulez, illustrer notre langue. Ça a été le cas, hein, un petit peu. On peut le regretter.
Ben, les Français ne sont pas nécessairement les meilleurs défenseurs de leur propre langue. Ça, on peut le regretter. Il suffit de voir quel est le comportement de certains hauts fonctionnaires, fonctionnaires français en situation de communication internationale qui, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils parlent souvent, bien, hélas, très mal l'anglais, renoncent à parler leur langue quand il leur faudrait, même en s'adressant à un public francophone, ce qui non seulement déconcerte nos partenaires de la francophonie, mais parfois les accable.
Parfois les accable terriblement, hein, c'est vrai. Donc, nous arrivons un peu à la fin de cet entretien, qui ne sera bien entendu pas le dernier entre nous. Est-ce que vous voyez, dans un avenir quand même assez proche, un redressement de la situation? Aussi bien la possibilité d'un redressement de la situation, aussi bien du côté du monde des savants, des scientifiques, que justement de cette Europe. Et pour cela, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre noir sur blanc, vous y employez tout à fait, mais mettre noir sur blanc une stratégie très compacte pour nous permettre vraiment d'avancer encore plus vite? Et je pense que les travaux de votre délégation sont des travaux tout à fait remarquables.
Mais je crois, si vous voulez, que la question de la diversité culturelle et linguistique est une des grandes questions du XXIe siècle. Sans aucun doute, elle est aussi importante que la question, aussi cruciale probablement pour l'avenir de l'humanité, que la question de la diversité biologique. La question de la diversité biologique est dans tous les esprits. Comment protéger l'environnement? Comment éviter que disparaissent certaines espèces, etc.? Il y va de notre écosystème et par conséquent, eh bien, de la même manière, une prise de conscience progresse, je crois, dans toutes les sociétés sur la nécessité de préserver la diversité de l'expérience humaine. Je cite très souvent cette phrase de Claude Lévi-Strauss, rendons-lui cet hommage, puisqu'il a disparu il y a quelques mois seulement.
De l'Académie
française. Il disait « Un monde dans lequel on ne parlerait plus qu'une seule langue serait un monde d'une effroyable solitude. » Et il avait tout à fait raison, parce que dans un monde où on ne parlerait plus qu'une seule langue, on ne rencontrerait jamais l'autre. L'autre serait toujours le même, puisqu'il nous renverrait la même vision du monde.
Un affadissement total.
Absolument. Donc il faut préserver la diversité des langues, parce que c'est préserver la diversité de l'expérience humaine. C'est
donc tout. Xavier Nortes, si je comprends bien, et nous sommes sur la même longueur d'onde, illustrer le français, c'est vraiment, essentiellement, illustrer aussi les autres langues.
Mais bien sûr, le combat pour le français, c'est un combat pour la diversité. Ce n'est pas un combat contre quelque langue que ce soit, c'est un combat pour la diversité.
Et d'ailleurs, on peut voir que le discours a vraiment changé depuis une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, où avant, il y avait un peu cette espèce de défense du français qui était parfois un peu archaïque, alors qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sur cette ligne maginot-imaginaire ou imaginée, mais sur cette défense et cette illustration de l'ensemble de l'Europe.
Le français a longtemps pâti d'une réputation d'arrogance, parce qu'il a été longtemps une langue dominante. Et pas simplement une langue dominante, mais une langue dominatrice, une langue impériale, parfois impérialiste. Et notre expérience coloniale n'a fait que renforcer cette image. Mais aujourd'hui, où par un renversement des choses, elle a plutôt tendance, là où elle est parlée, à être en situation de concurrence ou de rivalité avec une langue globale, qui, elle, est tout à fait dominante et dominatrice, eh bien, elle porte en elle aujourd'hui des valeurs d'émancipation et de diversité, en effet.
Je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous et croyez-le, nous allons tous chercheurs dans le monde entier nous régaler de ces derniers travaux et rapports de votre délégation car ils sont tout à fait importants. Merci infiniment.
Merci beaucoup de votre invitation.